Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Et avec ton esprit.
Prions.
Accorde, Seigneur,
à tes fidèles cette grâce de vivre le temps du carême comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour et de le passer tout entier dans une ferveur que rien ne puisse troubler. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un cœur unanime la foi de l'Église universelle.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait les cieux et la terre.
Prions.
Thank you.
recevons la parole de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduit à la vie éternelle.
Amen.
C'est assez rare, mais pour une fois, le temps liturgique s'accorde avec une commémoration laïque. Vous le savez peut-être, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Et il se trouve que l'Évangile va parler d'une rencontre avec une femme, entre Jésus et une femme. Et nous avons choisi la lecture longue, c'est la raison pour laquelle il n'y aura qu'une seule lecture, la lecture de l'Évangile. Pour laquelle on s'assoit aussi. Merci Sarah.
Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 3. Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » C'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi ?» que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici.
Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Sur quoi les disciples arrivèrent ? Ils s'étonnaient que Jésus parle avec une femme. Cependant, personne ne le lui dit. Personne ne lui demanda « Que cherches-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu à cette femme ?» La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient, « Rabbi, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse son fruit pour la vie éternelle. Si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai qui dit « L'un sème, l'autre moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de la parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Louange à toi, ô Christ.
De frontières, auxquelles on se heurte, mais aussi de frontières que l'on franchit. Tel est le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Pourtant, ces frontières auraient dû rendre impossible une telle rencontre. Un juif ne parle pas un samaritain, encore moins une samaritaine. Un juif de l'époque ne s'adresse pas publiquement à une femme, alors que celle-ci est seule. Ces frontières sont bien là, mais la rencontre a bien lieu. S'ajoute à la difficulté de ces frontières une série de conditions peu favorables à la rencontre. Nous sommes en plein midi, donc au moment où la chaleur est la plus écrasante, dans un endroit plutôt désertique, Sichar. Ce n'est donc ni l'heure, ni le lieu favorable pour une discussion. Bref, tout est en place pour que les frontières s'apparentent plutôt à des murs, tout est en place pour que la rencontre échoue. Or, celle-ci a bien lieu. Comment cela a-t-il été rendu possible? Alors évidemment, une réponse rapide, bien trop rapide et immédiate, serait de dire « Avec Jésus, tout est possible ». Une telle affirmation est vraie, bien sûr. Mais il nous faut entendre ce que dit aussi ce récit. Au verset 6, Jésus est fatigué du chemin. Peut-être sommes-nous peu habitués à contempler le Fils de Dieu fatigué, le Sauveur du monde, puisqu'il est décrit comme tel, confessé comme tel à la fin du texte, le Sauveur du monde dans l'obligation de s'arrêter, de s'asseoir par fatigue, par soif au bord d'un puits. De plus, verset 11, il n'a rien pour puiser, le puits est profond. À la fatigue s'ajoute le manque de moyens, comme un manque de puissance apparente. Donne-moi à boire. Face à cette étrangère, Jésus ne se situe pas d'abord comme celui qui a et celui qui sait, mais comme celui qui est demandeur, qui a besoin de l'autre. De plus, cet autre est une étrangère, considérée par tout juif religieux comme une païenne à éviter, car idolâtre. Or, Jésus n'a pas peur d'aller jusqu'à dépendre d'elle et de le lui manifester. Le récit précise aussi dès le début que ce passage de frontière est comme un choix obligé, une nécessité pour Jésus. En effet, tout au début du texte, il nous est dit Jésus devait passer par la Samarie. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Tout commencerait-il donc ici, par un moment de fatigue, de vulnérabilité, sur un chemin imposé? Un moment de fatigue sur un chemin imposé, même pour Jésus? Voilà qui peut être très consolant pour chacun de nous, mais voilà qui peut être aussi très exigeant. Et c'est la première interpellation ou bonne nouvelle de ce texte. Jésus nous montre ici qu'il n'est nul besoin d'attendre que les conditions soient favorables pour se confronter aux barrières qui séparent. La vulnérabilité devant l'autre, comme le besoin d'aide, même d'une païenne, ne sont pas à craindre. Ils peuvent même être le bon terreau de la rencontre, voire même devenir la condition de la mission, pourquoi pas. Deuxièmement, le récit aurait presque pu s'arrêter là. Mais cette femme ose exprimer ce qui la choque. Elle ose questionner les obstacles, les impossibilités à cette relation. Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine? La règle établie est que juifs et samaritains n'aient rien en commun. Alors, cet homme a-t-il bien compris les conséquences de sa demande? Cet homme a-t-il réalisé qu'il utiliserait la cruche qu'elle-même avait touchée? A-t-il conscience que selon la loi juive, sa loi à lui, il deviendrait alors impur? Pourquoi prendrait-il ce risque de l'impureté? Sans doute est-ce à partir de là que la Samaritaine commence à comprendre qu'il y a ici plus qu'un homme assoiffé. Mais cette manière de faire de Jésus nous transmet aussi une deuxième interpellation qui est aussi une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas pour Jésus de se protéger de l'impureté en établissant barrières et murs, mais de communiquer sa vie. En définitive, ce n'est pas l'impureté qui est contagieuse, mais la force de vie du Christ. Cela ne transformerait-il pas nos rencontres, nos missions, nos communautés, si nous réalisions que ce n'est pas l'impureté de telle ou telle situation qui est un risque, mais c'est la force de vie de Christ qui est contagieuse et qui transforme? Le seul risque que nous courons alors est celui d'être un peu plus vivante ou vivant. C'est alors que les paroles de Jésus proposent une transformation radicale. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Comme souvent, Jésus renverse la situation et invite la Samaritaine à voir les choses complètement autrement. Après s'être présenté comme celui qui a besoin de l'être humain, fût-il une femme hérétique, Jésus se présente comme celui qui est don, offrande. Il dit qui il est. Christ est fondamentalement celui qui s'offre aux humains, qui donne et se donne, qui donne une eau vivante abondante sans condition, si ce n'est celle d'avoir soif. Et pour la deuxième fois, la Samaritaine ose dire son incompréhension. « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Serais-tu donc plus grand que notre ancêtre, plus grand que notre tradition ?» Cette femme a raison dans un certain sens. Il n'est pas évident de reconnaître que celui qui donne la vie en abondance est le même que celui qui est fatigué du chemin, assis sur la margelle d'un puits. Quelle image d'un Christ tout-puissant! Ce contraste sera une épreuve pour les disciples. Ce contraste est une épreuve pour nous, sans doute. Combien il est difficile, il sera difficile pour eux, pour nous peut-être, de croire que nous pouvons être sauvés par un vaincu, un crucifié, un humilié. Pourtant, cette manière de faire, cette manière d'être en relation, devrait interroger leur désir de toute puissance comme leur peur. Cette manière d'être de Dieu devrait interroger nos propres désirs de toute puissance et nos peurs. Telle est la troisième bonne nouvelle de ce texte. En tout cas, cette manière d'être de Jésus crée la confiance chez cette Samaritaine qui dit alors « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Encore une fois, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais de même qu'il n'y a pas de grâce à bon marché, il n'y a pas d'eau vive à bon marché. Cette eau qui jaillit en vie éternelle vient irriguer et transformer toute l'existence de cette Samaritaine. C'est ainsi que l'on peut comprendre le dialogue à propos de la vie privée problématique de cette femme. Une vie passée tumultueuse qui l'oblige à se cacher, à venir au puits lorsqu'il n'y a plus personne, c'est-à-dire à l'heure la plus chaude de la journée. Jésus ne s'adresse pas uniquement à la partie honorable de la vie de cette femme, de même que Jésus ne s'adresse pas uniquement à la partie honorable de nos vies. Mais il le fait en la libérant et en la réhabilitant. C'est étonnant dans ce récit de voir le va-et-vient constant entre les réalités concrètes de l'existence, avoir soif, être fatigué, les relations et les questions théologico-religieuses. Comme s'il n'y avait pas de cloison étanche entre les deux, entre la vie personnelle et les débats théologiques. Et oui, curieusement, c'est à cet endroit que la Samaritaine se fait théologienne et pose une question concernant la vérité du culte. Nous, les Samaritains, nous adorons, bon, etc. Vous, à Jérusalem, où est la vérité ? Mais apparemment, cela n'a rien à voir avec les cinq maris et son concubin. Serait-elle une habile communicatrice ? S'agit-il de digression d'une habile communicatrice ? Serait-ce une manière de fuir le concret de sa vie que Jésus vient tout juste de lui rappeler ? Certainement pas, parce qu'on verra cette femme un peu plus tard laisser sa cruche, comme d'autres leur filaient, et courir au village, annoncer à tous « Quelqu'un m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Elle ne nie pas son passé, elle ne minimise pas celui-ci. Mais qui se réjouit et part en courant, joyeux, pour dire « Quelqu'un m'a dit tout ce que j'ai fait ?» Mais c'est ainsi que fait le Christ. Le rencontrer, c'est recevoir la vérité sur sa propre vie. Une vérité qui ne condamne pas, une vérité qui restaure, qui réhabilite, qui crée des relations nouvelles. D'ailleurs, cette femme, elle est comme remise au cœur de la communauté, samaritaine en tout cas. Non pas malgré son passé, mais avec son passé, elle est remise au cœur de la communauté samaritaine. Telle est la quatrième bonne nouvelle de ce récit. J'avais encore bien d'autres bonnes nouvelles à vous donner, mais il est temps de poursuivre notre prière. N'oublions pas la fin de l'histoire. Il nous est dit que beaucoup de Samaritains mirent leur foi en Jésus et vinrent à lui, après tant de siècles d'inimitié et de séparation. C'était possible enfin. Mais n'oublions pas aussi le début de l'histoire. Il a fallu une fatigue, un changement d'itinéraire, une frontière religieusement infranchissable, un manque de moyens, rien pour puiser. Il a fallu une femme, une étrangère au passé compliqué, osant toutefois questionner les différences qui séparent. Et malgré tout cela, la rencontre a eu lieu, l'eau vive a jailli. Si tu savais le don de Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
C'est juste et bon.
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce et de t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Toi qui es sans commencement ni fin, partout présent, auteur de tout bien, source de toute connaissance. Car tu as appelé l'univers à l'existence et tu as donné la vie à tous les êtres par ton Fils unique, Jésus-Christ. Ta parole est ta sagesse vivante, premier-né de toute la création. Il a pris sur lui notre nature et vécu notre vie d'homme et de femme dans la sainteté parfaite, pour nous faire connaître ton nom et pour allumer en nos cœurs la clarté de la foi. Ayant achevé l'œuvre que tu lui avais donnée à faire, il a été soumis à la souffrance et à la mort, pour nous arracher à la puissance du péché et nous délivrer de la mort. Pour toute ton œuvre, nous te rendons grâce, Maître Tout-Puissant. Nous t'adorons avec les armées innombrables des esprits célestes. Nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons. Devant le Seigneur. En nous, Seigneur, mets ton esprit et nous vivrons. En nous, Esprit consolateur, sois sans repos, plénitude de joie, force cachée. Transfigure ce pain en nourriture éternelle. Transfigure ce vin en source de vie intarissable. En nous, Seigneur, mets ton esprit et nous vivrons. Ô, viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. »
Nous proclamons ta mort.
irai manger la Pâque avec tes disciples. Nous t'en supplions, rends-nous participants de la Pâque nouvelle. Avant ta venue, on disait « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé quand ils sortirent d'Égypte. » Recevant ce pain de ta main, nous disons « C'est toi, le pain vivant descendu du ciel. » Avant ta venue, on disait « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. » Recevant cette coupe de ta main, nous disons « Voici le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde. » Comblés par ta présence, nous t'adorons et comme tu nous l'as appris, nous disons
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. »
Voici la table où Dieu veut nous nourrir. Voici l'instant où le Christ peut nous renouveler. Alors venez, vous qui avez faim et soif d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste. Jésus-Christ, qui s'est assis à nos tables, nous invite maintenant à la sienne. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez, car maintenant tout est prêt. Dieu notre Père, gloire à toi pour cette communion. Par elle, le Christ nous donne part à sa vie et à la puissance de son amour. Ouvre nos yeux sur l'immensité de ce don. Accorde à notre foi d'y puiser courage et fidélité par ton Fils Jésus, en qui tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
Nous pouvons regagner nos places après avoir entendu. Vous tous qui avez été conviés à la table du Seigneur, allez dans sa paix.
Amen.
Comme tu as guidé le Christ au désert, dirige-nous.
Comme tu l'as gardé dans la tentation, garde-nous.
Comme tu as accueilli tes disciples à la transfiguration, purifie-nous.
Comme tu as donné l'eau vive à la femme altérée, vivifie-nous.
Comme tu as donné la lumière aux yeux aveuglés, ouvre nos yeux.
Qu'au long de ce carême, déjà nous espérions la joie pascale, le matin de Pâques, la pierre roulée, le royaume de lumière qui vient.
Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.